Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Que Dieu soit béni, veuillez vous asseoir. Bien, après ce moment de louange et d'adoration, ce moment qui auront été une vraie opportunité pour nous de nous approcher de Dieu avec confiance, avec assurance, pour lui présenter notre cœur, lui présenter notre louange, pour épancher nos âmes en sa présence. Après ce moment donc, nous allons sans plus tarder nous asseoir très humblement et très respectueusement au pied du Seigneur, afin de lui donner l'occasion de nous parler, car nous allons bientôt parler de sa parole. Nous inclinons donc nos têtes. Merci pour ces moments qui nous ont permis de nous réjouir, Seigneur, en ta présence. Ces moments qui nous ont permis, Seigneur, de nous approcher de toi, du trône sur lequel tu sièges, Seigneur, afin de te louer, de t'adorer, de t'exprimer les sentiments de nos cœurs. Et merci d'avoir eu une oreille attentive, Seigneur, à tout ce qui est monté de nos cœurs vers toi, car nous sommes ton peuple, Seigneur. Nous sommes membres de ta maison, nous sommes le troupeau de ton pâturage que tu conduis par ton Saint-Esprit. Merci pour cet amour que tu as pour chacun de nous, cet amour, Seigneur, qui t'amène à t'incliner vers nous et à nous faire du bien. Cet amour, Seigneur, qui t'amène non seulement à t'incliner vers nous, mais aussi à étendre ton bras, ce bras puissant, ta main puissante, pour la poser sur nous et rencontrer nos besoins, quels qu'ils soient. Merci pour tous ces gestes de bienveillance. Ta parole te révèle comme étant le Dieu qui fait grâce, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui est riche en bienveillance, en miséricorde, en patience. Oui, Père, merci pour tout, tous ces attributs, toutes ces qualités, Seigneur, toutes ces vertus qui te singularisent et qui te mettent au-dessus de tout. Nous voulons maintenant, Seigneur, recevoir ta parole, l'accueillir avec foi dans nos cœurs. Et pour cela, aide-nous, Seigneur, à rester attentifs, concentrés sur toi. Aide-nous, Seigneur, à éloigner de nous tout ce qui pourrait nous distraire. Que toute notre attention soit tournée vers toi et focalisée sur toi. Merci de bénir, Seigneur, l'outil dont tu vas te servir pour l'édification de ton peuple, pour la communication de ta vie au travers de ta parole. Merci pour tout. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Comme nous l'avions annoncé et comme vous pouvez le remarquer, notre culte d'aujourd'hui est un peu spécial. Spécial en ce que, en dehors des moments de louange et d'adoration, en dehors du temps consacré à la prédication de la parole, nous allons honorer des couples ayant accompli un certain nombre d'années de mariage. C'est donc la deuxième remise des diplômes. La première a eu lieu le 22 octobre. Et ce jour-là, il avait plu. Et aujourd'hui, eh bien, rebelote, il pleut encore. Mais comme je le dis souvent, nous ne pouvons pas reprocher à la pluie de venir aussi chercher sa part de bénédiction, n'est-ce pas? Là où le nom du Seigneur est invoqué. Et donc voilà, mais avant de procéder à la remise, avant d'honorer tous ces couples, nous allons écouter la parole de Dieu et un culte spécial comme celui-ci est une opportunité plus que merveilleuse de faire, mes amis, l'apologie du mariage tel que Dieu l'a initié, l'a pensé, l'a institué, une occasion, comme nous allons le voir, de faire l'éloge de l'engagement mutuel devant Dieu, devant l'autre et devant les familles respectives et devant son Église. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons donc nous poser la question de savoir comment tenir son engagement jusqu'au bout. Car le mariage est un engagement. On s'engage envers l'autre, et puis les deux s'engagent devant le Seigneur, devant son Église, devant les familles respectives et devant les amis. Alors, comment tenir cet engagement jusqu'au bout? En d'autres mots, tenir cet engagement, c'est travailler, travailler au succès, travailler à la réussite de son foyer, de son mariage. Nous allons sans plus tarder relire le texte que nous avons lu la fois dernière, à savoir Genèse chapitre 2, versets 18 à 24, et puis ensuite nous poursuivrons notre lecture dans le psaume 127, juste le premier verset. Nous commençons avec Genèse chapitre 2, versets 18 à 19, nous lisons « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme, ou littéralement bâtit une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, eh oui, cette fois, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et s'engagera envers sa femme, et la femme envers lui, et les deux deviendront une seule chair. Et le psaume 127, juste le premier verset, c'est le cantique de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Le mariage. Voilà une institution qui, depuis qu'elle existe, a toujours fait l'objet d'attaques de la part de l'adversaire de nos âmes, a toujours fait l'objet de toutes sortes de pressions de la part du monde des ténèbres, et cela parce que, d'abord, ça vient de la part du Seigneur, et puis ensuite, en créant ce cadre, en instituant le mariage, Dieu a créé un cadre pour que l'homme et la femme puissent expérimenter le bonheur après lequel ils aspiraient. Et donc, par conséquent, il n'est pas étonnant de voir que cette institution de plus en plus attaquée un peu partout, cette institution bat de l'aile. Voilà pourquoi l'Église de Jésus-Christ, qui est porteuse des valeurs du royaume de Dieu, se doit, mes amis, de faire l'apologie de l'engagement entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. Voilà pourquoi l'Église doit faire l'éloge de l'engagement entre l'homme et la femme, et puis l'engagement de deux envers le Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons là devant nous, eh bien, des couples ayant accompli 25, 30, 35, 40, 45 et 50 ans de vie commune. Alléluia. 50 ans de mariage, une opportunité donc pour nous, eh bien, de revenir sur cette institution, de parler du mariage. Car dans la plupart des cas, ce genre de prédications sont réservées uniquement lorsqu'il est question de bénédiction nuptiale. Mais nous devrions, mes amis, saisir la moindre occasion pour communiquer aux gens la vraie image, la vraie vision du mariage tel que Dieu l'a pensé, tel que Dieu l'a initié, tel que Dieu l'a institué. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai dit que ce culte d'aujourd'hui, cette célébration, est une occasion plus que merveilleuse de faire l'éloge de la promesse tenue, mais aussi de l'engagement honoré. Ils se sont engagés, ils se sont partagés la parole, et puis ils ont tenu jusqu'au bout. Alléluia. Ces couples ici présents et tant d'autres qui sont dans la salle, se sont promis un jour de s'aimer. Et ils ont tenu, et ils tiennent encore leur promesse. Ils sont restés fidèles à la parole donnée, à la parole échangée devant l'Église et devant le Seigneur. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Un jour, ils se sont engagés, l'un vis-à-vis de l'autre, évidemment dans le cadre sacré du mariage, et les deux, un jour, se sont engagés devant le Seigneur, qui est l'auteur du mariage. À chaque fois que j'ai l'occasion d'intervenir dans une cérémonie de mariage, je ne cesse de rappeler aux gens que le mariage est une institution qui a été mise sur pied par le Seigneur lui-même. C'est donc lui l'auteur du mariage. Et ces couples qui sont là ont honoré et honorent encore leur engagement. C'est ainsi que 25 ans plus tard, 30, 35 ans plus tard, 40, 45 ans plus tard, 50 ans plus tard, eh bien, ils sont encore ensemble. Alléluia. Tout ça pour dire qu'il y a moyen de s'aimer jusqu'au bout. Il y a moyen d'aller jusqu'au bout avec l'autre et de traverser les crises, de traverser les moments difficiles ensemble. Ils ont tenu donc leur engagement. Ils ont honoré la parole donnée, qu'ils se sont donnée, mais aussi honoré la promesse qu'ils se sont faite un jour. Tout ceci, mes amis, dans un monde où l'heure est au divorce, dans un monde où l'heure est au concubinage ou à l'engagement libre, c'est-à-dire à la cohabitation qui n'implique aucun engagement de part et d'autre. Tout ceci dans un monde marqué par la polygamie dans certaines cultures, ou même la polyandrie, le fait qu'une femme puisse avoir plusieurs hommes. Tout ceci, mes amis, dans une époque où l'heure est à la banalisation et à la désacralisation du mariage. Mes amis, devrais-je rappeler à chacun de nous que nous vivons dans un monde où tout va en vrille, un monde où nous assistons à des changements ou des mutations profondes, et ce, dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans la famille. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de nouveaux paradigmes qui sont donc défendus, surtout de l'autre côté, en hémisphère nord, où on parle d'homoparentalité. Des mutations dans la sphère du mariage. J'avais suivi avec sidération un documentaire sur l'union libre. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Où la femme peut faire venir une femme mariée, peut faire venir dans leur maison, avec l'accord de son mari, son concubin. Et le concubin passe la nuit là. Vous vous rendez compte, où allons-nous? Au vice-versa, où l'homme fait venir sa concubine avec l'accord de la femme. L'amour libre, dit-on. Ce n'est pas ça l'amour, c'est du désordre. Des mutations quant à la sexualité, des mutations dans les rapports intergénérationnels, dans le domaine de l'éthique, dans le domaine de la morale. Mes amis, tout cela fait qu'aujourd'hui, cette institution est de plus en plus mise sous pression. Nous nous retrouvons comme pris en détail, quand je dis nous, ceux qui sont mariés, pris en détail. Il y a ce souci, ce désir, ce rêve qui nous habite de réussir le mariage, d'aimer l'autre jusqu'au bout. Et puis de l'autre côté, Il y a, mes amis, la réalité qui est souvent déconcertante. Parce que nous vivons dans un monde qui nous met sous pression, dans un monde qui cherche par tous les moyens à nous influencer. Combien ont bien commencé? Combien se sont tenus devant le Seigneur, ont échangé leurs paroles de promesse, leur engagement, et puis en cours de route, les choses ont déraillé. En cours de route, eh bien, la machine a perdu de sa force, et puis tout est parti en vrille. Cette aspiration de chercher l'âme sœur, de trouver l'homme de sa vie, la femme de sa vie, mes amis, est conforme à la volonté de Dieu. Cela n'est pas le produit d'une quelconque évolution sociétale. Cela n'est pas le produit d'une quelconque évolution, je ne sais dans quel domaine. C'est Dieu qui, dès le départ, et nous l'avons lu, qui a voulu qu'il en soit ainsi. Oh, alléluia! Que l'homme trouve l'âme sœur, que l'homme trouve la femme de sa vie, et que la femme trouve l'homme de sa vie, alléluia! Et la rencontre, comme je l'ai dit souvent, la rencontre d'un homme et d'une femme, mes amis, dans les dédales inextricables du temps et de l'espace, reste un véritable miracle. N'est-ce pas? Regardez, vous qui êtes mariés, comment vous êtes rencontrés un jour. Les circonstances, les événements, lors d'un voyage professionnel, lors d'un déplacement pour les études à l'étranger ou je ne sais où. Voyez-vous, les circonstances et les événements qui ont permis que vous puissiez un jour vous rencontrer. Personne ne peut expliquer cela. Ça relève du mystère, alléluia. Ça relève du miracle. Et gloire à Dieu. Vous êtes retrouvés là où il fallait, au moment où il fallait, pour qu'enfin l'étincelle jaillisse. Et depuis, c'est la flamme qui brûle entre vous deux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Revenons très rapidement à la genèse du mariage. Nous l'avons vu le 22 octobre, où nous avons parlé du mariage comme étant quelque chose de très bon. Oh là là, il y en a qui ne sont pas d'accord. Le mariage est très bon. Il ne faut pas regarder à ceux qui ont échoué. Regardez à ceux qui ont réussi. Et même ceux qui un jour ont divorcé, gardent des très très mauvais souvenirs par rapport à tout ça. Ils auraient tant aimé, continué à aimer la femme de leur jeunesse, l'homme de leur jeunesse. Mais hélas, une tornade est passée par là. Et puis c'était la fin. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Oh, alléluia! Et c'est ainsi qu'il plongera l'homme, nous en avons parlé, le 22 octobre, il plongera l'homme dans un sommeil, dans une sorte de léthargie ou de torpeur voulue par Dieu. Et là, il va extraire de la côte de l'homme la femme. Alléluia. Et quand l'homme ouvre les yeux, quand il revient à lui-même, quand il reprend ses esprits, il a devant lui quelqu'un qui lui ressemble, en même temps qui est différent de lui. Oh, alléluia. Il voit devant lui un miroir qui lui reflète ce qu'il est. En même temps, l'autre voit dans Adam un miroir. Formidable, n'est-ce pas? C'est de la côte qu'il a été tiré. Je disais encore la citation d'un exégète, hier quand je préparais le message, où il dit, en substance, que lorsque le moment est arrivé de trouver une femme à l'homme, eh bien, le Seigneur n'a pas retiré la femme de la tête de l'homme pour que celle-ci domine l'homme. Vous me suivez? Il n'a pas non plus retiré la femme des pieds de l'homme pour que ces derniers l'écrasent. Oh, dans notre tradition, c'est toujours comme ça. Quelle tradition? Le mariage ne vient pas d'une culture quelle qu'elle soit. Elle vient d'en haut. Ni tiré des pieds de l'homme, ni de la tête de l'homme, mais de la côte de l'homme à côté du cœur. pour montrer, mes amis, qu'ils sont égaux aux yeux de Dieu, qu'ils sont appelés à s'aimer, que la place de la femme, c'est là auprès du cœur de son mari. Et la place de l'homme, c'est là auprès du cœur de son épouse. Alléluia. Et gloire à Dieu. C'est pourquoi, nous dit la Bible, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il est donc, frères et sœurs, chers amis, de la plus haute importance pour l'homme et la femme de savoir, de comprendre que le mariage vient de Dieu. Et par conséquent, le mariage est un projet qu'on est appelé à construire, à réaliser, non pas à deux, mais plutôt à trois. L'homme, la femme, et la troisième personne, l'auteur du mariage. Alléluia. Gloire à Dieu. L'auteur du mariage. Voilà comment ce projet doit être bâti, construit. Ainsi, pour mener à bien cette entreprise, l'homme et la femme ont donc besoin d'aide, de l'aide de l'auteur du mariage. L'homme et la femme ont besoin du soutien, ont besoin de l'assistance de l'auteur de cette union sacrée, à savoir Dieu lui-même. Ça, c'est un des préalables si nous voulons vraiment bâtir un mariage digne du Seigneur, si nous voulons bâtir une maison qui soit source de bonheur, source de joie partagée et pour l'homme et pour la femme. Il faut que nous le réalisions. Cela revient à dire que le mariage, selon Dieu, le vrai, l'authentique, le mariage, selon Dieu, n'est pas un binôme, c'est-à-dire où il y aurait que l'homme et la femme, mais plutôt une triade, l'homme, la femme et, est-ce que nous pouvons acclamer ça? Gloire à Dieu. Et Dieu. Alors, notre question, comment alors tenir cet engagement vis-à-vis de l'autre? Comment honorer la parole que j'ai donnée à l'autre, de l'aimer jusqu'au bout, jusqu'à ce que la mort intervienne? En d'autres mots, se poser cette question du comment tenir cet engagement, c'est chercher à voir, à comprendre quelles sont les voies et moyens qui sont là devant nous pour pouvoir réussir notre mariage, pour que le succès, pour que la réussite, eh bien, soit une expérience que nous faisons là, dans le cadre du mariage. En d'autres mots, parler du comment réussir son engagement, parler du comment tenir la parole qu'on a donnée à l'autre, et ce jusqu'au bout, c'est se poser la question de choses que nous devons faire, de choses que nous devons comprendre, si nous voulons que notre mariage connaisse le succès, si nous voulons que notre mariage soit une réussite. Alléluia. Et gloire à Dieu. Et pour cela, il y a des préalables. Il y a des prérequis. Des prérequis qui sont indispensables. Pour les avoir oubliés, ou pour les avoir ignorés, beaucoup de mariages aujourd'hui passent par des moments difficiles. Et même, certains ont fini par céder à la pression, et par voir l'homme et la femme se séparer, et dans la plupart des cas, dans la douleur, dans la souffrance, dans les larmes. Alors, que devons-nous comprendre? Première chose, et nous l'avons dit, c'est que le mariage est une institution divine. Vous l'avez déjà entendu à plusieurs reprises, et je me permets de vous le rappeler, mes amis. C'est une institution divine qui nous vient de Dieu. C'est donc lui qui l'a initié. C'est lui qui a posé ce diagnostic, qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand il dit ça, comme nous l'avons vu le 22 octobre, eh bien l'homme, ultimement l'homme n'était pas seul. Il était entouré d'animaux, oui ou non? Il y avait des animaux, il y avait de tout, des oiseaux. Il vivait dans une nature luxuriante. Il vivait dans un contexte, mes amis, paradisiaque. Il avait tout, il y avait des richesses. L'homme avait une intelligence à plusieurs étages. Parce que c'était à lui que Dieu avait demandé de donner les animaux, à toutes les bêtes des champs, tous les animaux, les oiseaux. Vous vous rendez compte? C'était à l'homme. Donc il avait tout. vraiment tout? Non. Il lui manquait quelque chose. Mieux, il lui manquait quelqu'un. En d'autres mots, il y avait un vide qu'aucun animal n'a pu combler. Un vide que la richesse n'a pu combler. Un vide que rien, là au paradis, plutôt dans ce contexte paradisien, là, dans le jardin d'Éden, il n'y avait rien, aucun ange. Et je dirais même pas Dieu lui-même. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais et qu'il a voulu que ça soit une aide semblable, un vis-à-vis pour l'homme qui puisse le faire. Voilà un de premiers préalables. Le mariage nous vient d'en haut. Et puisque ça vient de la part de Dieu, alors, mes amis, ayons de la crainte par rapport au mariage. N'ayons pas une attitude de légèreté, d'incurie. Voyez-vous, non, mais plutôt une attitude de déférence, de respect, en sachant que ça vient de Dieu, que tôt ou tard nous aurons de comptes à rendre à l'auteur du mariage. Voilà donc la première chose. La deuxième chose, très rapidement, nous devons savoir que se marier, comme j'ai déjà eu à le dire à plus d'une fois, c'est partir sans ticket de retour. Alléluia. Voilà, j'aime, c'est amen. Voilà. Vous prenez un ticket, pas aller, retour. Voilà. Il y a malheureusement, il y en a qui vont et qui prennent un ticket retour en disant, on ne sait jamais. Ah, on ne sait jamais. Voilà. Il y en a même, avant de s'engager, ils cherchent quel est le ténor du barreau qui pourrait défendre mes intérêts au cas où. Voyez? Non. S'engager dans le mariage, c'est partir sans ticket de retour pour une odyssée extraordinaire, pour un voyage merveilleux, un voyage qui mène non seulement vers des contrées d'abondance, non seulement vers des contrées paisibles, des contrées merveilleuses, splendides, où coule le lait et le miel, mais le mariage est aussi un voyage. Un voyage à travers des forêts sombres. Un voyage à travers le désert. Un voyage qui nous amènera à prendre des chemins rocailleux. Des sentiers où il y aura des ronces, où il y aura des épines, voyez-vous. Mais ce qui est formidable, c'est que si l'auteur du mariage est avec nous, si nous continuons à nous appuyer sur lui, eh bien nous poursuivrons notre voyage, alléluia. Nous passerons par des tunnels sombres, nous connaîtrons des moments de crise, mais tant que lui sera là, tant que nous continuerons à lui faire confiance, eh bien, nous traverserons ces forêts sombres, la main dans la main. Oh, alléluia. Il y a encore espoir. Il n'y a pas de problème qui n'ait de solution auprès du Seigneur. Ne dites pas, oui, mais c'est fini. Mon mari est l'incarnation du mal. Je n'ai jamais vu un homme aussi malfaisant, aussi morbide que mon mari. Oh, regardez, oh là là. Quand je vois un démon. Voilà. Je n'ai jamais vu une femme aussi difficile que celle-là. Ah bon? Aujourd'hui, tu l'appelles celle-là. Il y a encore quelques années, tu ne pouvais pas dormir sans l'avoir vue. À l'époque, il n'y avait pas d'SMS. Il n'y avait pas d'SMS. Certains ne pouvaient pas dormir sans avoir allé voir l'autre. Voyez? La nuit, sous la pluie, il fallait entendre ne serait-ce que sa voix. Ou alors, on allait là où elle étudiait, on faisait semblant. Certains se retrouvent. Semblant. Elle dit, ah, ah, tiens, je passais seulement. Tout cela pour la voir. Et puis, entre-temps, la vie a continué, vous êtes mariés, et puis un premier enfant est arrivé, et puis un deuxième, un troisième. Mais avec l'arrivée de la maternité, tout change. Rares sont celles qui gardent encore le corps qu'elles avaient quand elles n'avaient que 16 ans. Tout change. Et alors que tout change, malheureusement, ton regard change aussi. Quand tu la regardes, oh là 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 là. Elle dit, mais c'est pas possible, elle n'arrive même plus à marcher. C'est comme une limace. Quelle forme, elle est fantesque. C'est pas possible. Moi, j'avais épousé une biche. La biche du Kassai. Mais j'ai l'impression d'avoir, je ne sais, quel animal, un facochère ou quoi. Oui. Elle aussi, quand elle te regarde, ce n'est plus le bel homme qui marchait avec assurance. Un bel homme, oh là là, à l'époque, toutes les filles avaient les yeux sur lui. Voilà, avec assurance, fièrement, qui marchait comme un paon. Fier comme Artaban. Vous voyez? Voilà. Et maintenant, le temps aussi est passé par là. Cette belle chevelure que tu adorais tant. Et tu te disais, oh là là, si nous avons une fille avec lui, les cheveux de ma fille, de notre fille, sera comme ça. Mais avec le temps, un petit vent du temps est passé par là, a tout soufflé. Aujourd'hui, c'est un crâne qui ressemble à un œuf. Maintenant, tu ne vois que ça. Tu ne vois que ce crâne-là, oh là 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 là, c'est pas possible. Où sont partis les cheveux? Ou alors, quand tu le regardes derrière, oh, vous savez, avec le temps, nous mangeons beaucoup, hein, nous les mangeurs de foufou. Il faut qu'on se le dise, hein. Les chimas, les boucards et tout ce que vous voulez là. Ouais. Et ça s'accumule. Et avec le temps, il y a des plis qui se forment là. Et maintenant, quand il vient en face, tu le regardes plus. Tu attends qu'il te tourne le dos. Oh Seigneur, c'est pas possible. C'est comme trois collines qui se chevauchent, mon frère. Vous voyez? Quand le Seigneur est là, il y a moyen d'aimer l'autre. Car si le corps marqué par le temps se déforme, ce qui est normal, il y a une chose qui ne change point, c'est le cœur. Alléluia. On peut continuer à aimer l'autre. Mes amis, pour que ce voyage se poursuive, il faut rester loyal envers l'autre. Il faut rester fidèle l'un envers l'autre. Continuer à se tenir par la main et avancer en regardant dans la même direction. Il peut arriver que des problèmes surgissent. C'est pas un problème, il y a le pardon qui est là. Alléluia. La puissance du pardon qui peut restaurer la relation et vous faire retrouver l'amour d'autrefois. Gloire à Dieu. Eh oui, pour faire route ensemble, mes amis, il faut continuer à regarder ensemble dans la même direction. Quelle est cette direction? C'est celle que trace la parole de Dieu. C'est la direction, mes amis, du Christ ressuscité qui marche lui-même devant nous. Comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 12, le verset 1 à 2, « Ayant nos yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur ou l'initiateur de la foi et qui l'amène à la perfection. » Alléluia. Antoine de Saint-Exupéry a dit, « Aimer, ce n'est point nous regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. » Alléluia. C'est comme ça que vous pouvez avancer, la main dans la main. Mais dès que vous commencez à... L'un s'est dit, non, moi je suis fatigué. Vous, tout en tenant la main, et que vous commencez à regarder à gauche, et elle continue à regarder là devant, vous allez avancer par un moment, pendant un temps. Et puis après, ça sera très difficile. Parce que tu vas être attiré de plus en plus par ce que tu vois à gauche, ce que tu vois à l'est, ou à l'ouest, alors que elle regarde vers le nord où il y a le Seigneur. Ça peut être vice-versa. Troisièmement, très rapidement, se marier dans le contexte chrétien, c'est pouvoir vivre non à deux, mais à trois, une merveilleuse aventure. Oui, ils peuvent s'approcher, on peut le faire asseoir, parce qu'avec le temps, la circulation, et gloire au Seigneur. Vivre à trois, l'homme, la femme et le Seigneur, pour cette merveilleuse aventure. Mes amis, le Seigneur n'a pas seulement prévu un cadre où l'homme et la femme sont appelés à expérimenter le bonheur conjugal, où leurs aspirations les plus intimes peuvent être comblées, et c'est le cas. Mais le Seigneur veut entrer avec nous dans cette union sacrée pour nous aider à avancer, pour nous aider à faire face à toutes sortes de problèmes qui pourraient surgir, et ce, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quatrième chose que nous devons savoir, c'est que nous devons faire preuve d'un amour véritable et non pas un amour égoïste, égocentrique. Cet amour véritable qui, à l'instar du Christ, cherche le bien de l'autre. Je dis souvent aux jeunes mariés, ne vous mariez pas pour être heureux, attention, mais mariez-vous pour rendre heureux. Alléluia. Nous devons donc, mes amis, aborder le mariage dans la perspective du don, plutôt que de l'intérêt personnel. Alors seulement le mariage sera une source de bonheur pour nous. J'entre dans le mariage pour me donner à l'autre. Elle aussi entre dans ce même mariage pour se donner à son mari. Et donc dans la perspective du don, et non pas de l'intérêt personnel. Voilà. Je suis attiré par cette fille parce qu'elle appartient à une famille noble, une famille qui a des moyens. Comme ça, si je l'épouse, mon avenir est garanti. D'ailleurs, j'ai appris que les parents ont beaucoup de biens matériels. Quelques immeubles à la Gombe. Voilà. Le jour où les parents s'en vont, je pourrai avoir une part. Non. Ça, ce sont des motivations impures. Il faut aimer l'autre. Qu'il y ait immeuble ou pas, qu'il soit orpheline de père et de mère, ou qu'il ait ses deux parents, et que ses deux parents aient de l'argent, faut qu'il soit fortuné ou non, tu dois l'aimer pour ce qu'elle est. Elle doit t'aimer pour ce que tu es, et non pas épouser un nom. Voilà. Comme ça qu'on sache, tiens, il a épousé la fille du pasteur Bondo. Attention, j'en ai qu'une. Je crois qu'elle me suit. Elle va me dire, mais papa, toi aussi. Oui, un amour véritable. Jésus n'a-t-il pas dit dans Actes chapitre 20, verset 35, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et un des pères de l'Église, en l'occurrence Saint Augustin, a abondé dans le même sens. Il a enrichi cette citation du Seigneur en disant, l'amour qu'on donne enrichit plus que ce qu'on reçoit. Vous voyez, ce que tu donnes à l'autre dans le cadre de l'amour, du mariage, va t'enrichir plus que ce que toi, tu reçois. Donne d'abord. Alléluia. Et gloire à Dieu. Et le même Saint Augustin, et nous le savons tous, comment dois-je aimer l'autre? Quelle est la mesure de l'amour? Eh bien, il répond, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure, car l'amour est appelé à grandir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et enfin, si le Seigneur n'est bâti la maison conjugale, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si le Seigneur ne veille sur la ville, ceux qui veillent sur la ville veillent en vain. Si le Seigneur ne bâtit la maison, vous le savez tous, pour qu'une maison tienne, il y a des conditions qu'elle doit remplir et que toi, tu dois remplir, toi qui es appelé à habiter cette maison. Premièrement, il faut que cette maison soit bâtie sur des fondements solides, n'est-ce pas? avoir une solide fondation. Il y en a qui fondent leur mariage uniquement sur des sentiments. Vous savez, les sentiments peuvent s'évaporer. Ils sont là lorsque tout baigne dans l'huile. L'huile de la prospérité, l'huile du bonheur financier ou autre. Mais le jour où vous n'avez plus rien, vous retrouvez sur le carreau, eh bien les sentiments partent également. Non. Fondement sûr. Deuxièmement, pour qu'une maison tienne, il faut qu'elle soit construite avec des matériaux solides, des matériaux résistants. Ainsi, cette maison pourra résister aux intempéries, aux vents violents, aux pluies torrentielles, etc. C'est la condition. Mais aussi, il faut avoir un bon architecte. Pas n'importe qui. Un architecte qui va vous préparer le plan en tenant compte de plusieurs facteurs. Par exemple, la nature du sol, la direction ou l'orientation par rapport au soleil, la topographie, bref, il y a tant d'éléments que l'architecte va prendre en compte. Oui, il faut avoir un bon architecte. Si ces conditions, mes amis, ne sont pas remplies, on aura beau travailler, cette maison-là ne tiendra pas longtemps. Il suffira d'une pluie quelconque, des inondations pour que la maison soit emportée. Il suffira d'un vent pour que la toiture soit emportée. Il en est du mariage. Il en est de même du mariage. Il doit être bâti sur un fondement solide. Ce fondement n'est autre que le Seigneur lui-même. Alléluia. Il doit être bâti avec des matériaux qui viennent de la parole de Dieu, des conseils qui viennent de la parole de Dieu, une force spirituelle que nous avons par ou de par notre communion avec le Seigneur. La prière est un matériau important. La méditation de la parole. Vous voyez? Des attitudes et des conduites inspirées par la parole de Dieu. Et non pas un mariage qui repose uniquement sur les sentiments, sur les biens matériels, sur les plaisirs, sur l'argent et que sais-je. Et enfin, il faut avoir Dieu comme architecte. Et le plan et le modèle pour bâtir une maison solide se trouve dans sa parole et nous vient de lui. Alléluia. Non seulement Dieu est l'architecte, eh bien, il est aussi le gardien de notre mariage. Alléluia. Si nous ne veillons pas sur la ville, eh bien, c'est en vain. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, c'est en vain qu'on y veillera. Si le Seigneur ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Qui d'autre peut garder notre foyer contre les attaques extérieures, contre la jalousie des uns et des autres, contre la haine, même dans la famille, de la part des collègues, de la part de certaines connaissances? Qui d'autre peut nous garder notre foyer contre la pression du monde avec ses stéréotypes en matière de beauté? Quand tu l'as aimé, elle avait telle forme. Et puis avec le temps, il a changé. Mais comme notre monde a ses stéréotypes de beauté, tu regardes et dis non, elle n'est plus belle. Car d'après les stéréotypes dans certaines cultures, une belle femme doit avoir une poitrine quelconque. Une belle femme doit avoir la taille de guêpe. Ah. Des omoplates ressorties. Doit marcher comme une biche ou un paon. Et doit avoir une bonne cambrure. Voyez-vous? Ça, ce sont des stéréotypes. Dans certaines cultures, ça ne fonctionne pas. Vous voyez? Chez l'homme, c'est la même chose. Un bel homme, il doit avoir 1m80. Moi, je n'ai pas ça, mais demandez à ma femme. Si je suis beau, elle est là. Un bel homme, eh bien, doit être musclé. Il ne doit pas avoir des brioches, des petites bédaines, un petit ventre. Non, il doit avoir un visage symétrique. Il doit avoir un bon menton, je ne sais pas, sphérique ou carré, enfin, ça dépend. Vous voyez, tout ça, ce sont des détails superfétatoires, des détails qui ne garantissent pas la réussite. Vous voyez, la beauté, elle est d'abord intérieure. Et puis la taille, il y a des coins où les femmes ont toujours plus de 1m80. Mais il y a des coins aussi où des femmes sont petites. Voilà. Si vous avez 1m80, vous femmes, et qu'aujourd'hui, par un concours de circonstances, vous alliez vivre chez les pygmées, ben, elles vous trouveraient bizarre. Nos amis pygmées ont leur stéréotype de beauté. Oui ou non? Ben oui. Elles doivent regarder la femme comme ça, pas comme ça. Elle dit, mais avec le temps, je vais attraper de toutes sortes de torticolis. Hein. Vous voyez? Donc bref, si nous connaissons tout ça, que nous le mettons en pratique, alors nous connaîtrons le vrai mariage. Alors nous irons de l'avant. Alors nous tiendrons notre engagement. Que le Seigneur soit béni. Merci.